dans le livre de l'Exode. Ce matin, je le sais, que le Seigneur veut guérir quelqu'un, plusieurs certainement. Alors je vous demande d'écouter si vous êtes malade ou si vous êtes conscient qu'il y a peut-être une maladie spirituelle dans votre âme. Il n'y a pas que des maladies physiques, il y a aussi des maladies spirituelles. Et le Seigneur guérit de tout. Il est écrit, l'Éternel guérit toutes les maladies. Exode chapitre 15, verset 26. N'oubliez jamais que Dieu guérit. Exode 15, verset 26. Dieu dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 49, Dieu parle et nous parle du temps de la grâce. Grâce dans laquelle nous sommes aujourd'hui, 18 février. Ésaïe 49, verset 8. Regardez bien ce verset, c'est une promesse. Elle est valable, croyez-moi, elle est valable ce matin. Ésaïe 49, verset 8. « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. » Et au jour du salut, je te secourrai. Est-ce que vous croyez que ça peut se passer ce matin? Mais ça dépend que de nous. Il nous sera fait selon le nombre. C'est pas le nombre, hein? Il vous sera fait selon votre foi. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, nous avons une histoire extraordinaire qui s'est passé, que nous connaissons, peut-être que nous connaissons trop par la tête cette histoire. Matthieu 20, verset 29, je ne sais pas si on est vraiment conscient que cette question, Dieu pourrait te la poser ce matin. Matthieu 20, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta. Vous entendez? Il peut s'arrêter ce matin au milieu de nous. Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Et si Dieu te posait la question ce matin, sérieusement, « Que veux-tu que je te fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Ému de compassion, Dieu n'a pas changé. Dans l'évangile de Jean, nous avons encore une autre histoire encore plus précise par rapport à la guérison. Avec encore plus d'enseignement, car croyez-moi, la guérison, elle est effective. Dieu veut guérir. Ce n'est pas une réunion d'évangélisation, mais ça va être pareil. Beaucoup de chrétiens sont malades depuis longtemps. C'est exactement ce qui s'est passé. Jean chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Je vous laisse trouver, car c'est un texte que vous pourrez relire chez vous, et peut-être poursuivre l'intervention de Dieu. Jean chapitre 5, verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était là malade depuis longtemps, lui dit, Veux-tu être guéri? Je répète. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et que pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'annonça et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat, j'ai envie d'ajouter, les pauvres. Que veux-tu que je te fasse? Imaginez que ce n'est pas moi qui vous pose la question. Imaginez-vous que c'est Jésus vraiment, qui ce matin te pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme était malade depuis 38 ans, il était à Bethesda, Bethesda ça veut dire la maison de miséricorde, il était à sa place, même s'il était entouré que de gens qui étaient en piteux état, il était là. Nous sommes là, je ne sais pas depuis combien de temps vous venez, depuis combien de temps vous êtes fidèles à Dieu, depuis combien de temps vous connaissez la maison de miséricorde, depuis combien de temps vous savez que Dieu est miséricordieux. On a commencé par ce texte, il y a eu une fête. On voit souvent ce mot qui revient dans la Bible. John William nous le rappelait ce matin. Quand Paul parle de la discipline dans l'église, la discipline, il dit « poursuivons la fête ». Il y a une fête, pas la fête... que l'on considérerait du monde. Il y a une vraie fête dans la maison de Dieu, une fête spirituelle qui correspond à un besoin profond, celui d'avoir cette paix, cette joie, de réexpérimenter. Franchement, mon frère, est-ce que vous croyez qu'on est là que pour apporter son offrande, et c'est vrai que ça contribue. Cette semaine, j'ai reçu un courrier d'un pasteur qui bénit l'église et qui vous remercie parce que l'église ne tournait pas. Et grâce à vos dons, eh bien, cette église elle a pourvu jusqu'à ce que le pasteur soit remplacé et que l'autre vienne et cette église elle tourne. Et le pasteur dit, mais merci à Sainte-Anne. Béni soit Dieu pour cela. C'est une grande bénédiction. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez aidé des églises. C'est bien, et il faut continuer à le faire, et on continuera à le faire. Vous êtes là parce que vous aimez les frères et les sœurs. On aime se retrouver avec les frères et les sœurs, oui ou non? Vous aimez vos frères et sœurs qui sont là? On aime la communion fraternelle, c'est un immense bienfait de commémorer la mort de Jésus-Christ, c'est un bienfait, etc. De le louer, c'est un bienfait, je pourrais multiplier. Mais mes frères et sœurs, n'oublions pas que le Seigneur, il est là pour guérir et pour sauver. Et pour baptiser du Saint-Esprit. Le Seigneur, il voit si nous sommes dans cet attentisme-là, tout le temps, en train d'attendre comme cet homme qui attendait. Il attendait le mouvement de l'eau, mais comme il y avait quelqu'un de moins malade, eh bien, qui se jetait dans la piscine, cette affaire qui nous étonne. Mais enfin, mes frères et sœurs, vous ne croyez pas que Dieu peut de temps en temps bénir quelqu'un, et même très souvent? Combien de malades Dieu pourrait-il guérir ce matin dans ce lieu? Vous le croyez? Parce qu'il y en a des gens qui sont malades. Des gens qui sont malades depuis longtemps. Je ne parle pas de maladie physique. Bien sûr, c'est une expérience extraordinaire d'expérimenter la guérison physique. Mais moi, ça fait une semaine que je suis travaillé par ce sujet. Et je sais que ce matin, il y a des frères, des sœurs qui doivent faire un acte de foi parce que Dieu veut vous guérir. Pas un peu, pas à moitié. Dieu veut vous guérir. Entièrement. Et je peux vous dire que j'ai moi-même fait une expérience de guérison il n'y a pas longtemps et je suis convaincu que j'ai fait cette expérience pour que Dieu me pousse à ce que vous réalisiez qu'il est l'Éternel qui guérit. Il guérit toutes les maladies. Vous entendez? Et Dieu veut se glorifier. Dieu aime se glorifier. Mais il y a trop de train-train, il y a trop de religiosité, il y a trop de doutes. Il y a trop d'inquiétudes. Beaucoup de chrétiens sont recroquevillés sur une sinistrose. Vous savez ce que c'est la sinistrose? C'est une maladie chronique que beaucoup de chrétiens ont attrapée. Comme cet homme qui était là et qui a été honnête. Parce que l'honnêteté, c'est archi important devant Dieu. Ce qu'il faut, c'est être honnête. Dieu veut guérir, c'est clair. Est-ce que vraiment j'ai cette foi qui fera que j'obéirai? Parce que cet homme, il a obéi. Les deux hommes qui étaient aveugles ont crié pendant que les autres... Mais non, faites-les taire, ils perturbent la réunion. Et ces hommes, ils ont crié encore plus fort. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est arrêté. Et crier, ce n'est pas physiquement, c'est pas une question de décibels. Crier, ça veut dire que notre foi est plus forte que le doute. Il y a des gens dans les églises, ils crient, ils hurlent, mais ils n'ont pas la foi. Il n'est pas dit qu'il vous sera fait selon vos décibels. Il vous sera fait selon votre foi. La foi, je crois que le Seigneur est celui qui guérit. Qu'au jour de la grâce, le Seigneur t'exaucera. Qu'au jour de la grâce, le Seigneur t'accordera sa bonté. Et ce matin, vous avez le droit d'obtenir la miséricorde. Même si ça ne va pas. Même si vous avez passé une bonne semaine. Une mauvaise semaine, vous pouvez dire, j'ai besoin, peut-être que vous êtes là, j'ai personne depuis que je suis veuf, depuis que je suis divorcé, depuis que si, depuis que là, je n'ai personne. Et les chrétiens, ils sont continuellement recroquevillés sur cette solitude. Cet homme, il était tout seul, je ne sais pas, quelqu'un l'a mené le matin, j'en sais rien. En tous les cas, il était à sa place et il n'avait personne. Peut-être que vous êtes là et que vous dites, mais j'ai personne qui me comprend, j'ai personne qui m'écoute. Bien sûr, si ça fait des années que vous rabâchez les mêmes choses aux mêmes personnes, elles ont lancé. Ne les jugez pas. Mais cet homme, même s'il n'avait personne, quand Jésus lui a parlé... Il n'a pas argumenté. Et il dit, mais Seigneur, je t'ai dit que j'avais personne. Tu me demandes de me lever, ça fait 38 ans que je suis couché, je ne peux pas. Vous savez ce que le Seigneur va vous demander ce matin? Moi, je vous conseille de le faire. Si Dieu vous demande de faire un acte de foi, faites un acte de foi. Ne dites pas, oh, mais moi, je n'ai pas la foi. Vous avez tous reçu une mesure de foi. Vous entendez? C'est écrit dans la Bible? Vous croyez que Dieu demanderait quelque chose à quelqu'un comme ça? Alors qu'il ne peut pas. Vous savez que notre Dieu est tout puissant. Et s'il te demande de faire selon ta foi, fais-le. Lorsqu'il guérissait, il aurait pu dire, tu sais, je suis le Seigneur. Tu n'as pas compris. Mais il aurait, sérieusement, et sans humour, hein, Jésus aurait pu dire à tous ces gens, ma puissance t'a guéri. C'est moi qui t'ai guéri. Je suis le Seigneur du ciel et de la terre. Bientôt je vais mourir sur le calvaire pour que tes péchés soient pardonnés. Mais c'est moi qui t'ai guéri. Non, vous avez vu ce qu'il disait? Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Quelle délicatesse! Il mettait la grandeur de la bénédiction sur la petite participation de la personne. Ce matin, mes frères et sœurs, Dieu veut vous guérir. Vous savez, les prédications où je parle sur la guérison, elles se comptent sur le doigt des mains. Et je vous assure que ce matin, je sais que Dieu veut guérir quelqu'un. Quelqu'un qui depuis longtemps est malade et qui dit, voilà, parce que la maladie c'est quoi? La maladie c'est quand on est tout le temps en train de se plaindre. Oui, si mon mari était chrétien, qu'est-ce que je serais une bonne chrétienne? Ah, si ma maison était payée, qu'est-ce que j'aurais du temps pour le Seigneur? Ah, si mes enfants étaient, ah Jésus, qu'est-ce que je serais fidèle? Et etc., etc. Et si j'étais si, et si j'étais jeune, et si j'étais à la retraite, et si j'étais marié, et si j'étais célibataire, ça se fait pitié, vraiment. Mais vous pensez que j'exagère, sûrement. Vous pensez que j'exagère. Combien de chrétiens sont là? J'ai personne. J'ai, mes frères et sœurs, vous avez personne? Quand le Seigneur Jésus s'approche à côté de vous, il faut vraiment être dans l'aveuglement pour penser qu'on n'a personne. Mes frères et sœurs, que vous soyez seuls dans votre chambre, pour reprendre l'expression de Jésus, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, ou que vous soyez dans un lieu comme celui-ci, dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible qui montrent que dans la maison de Dieu, on peut le célébrer parce qu'il agit encore? Est-ce qu'il y a des psaumes? Est-ce que vous voulez que je vous en laisse? Vous savez que c'est vrai. Heureux ceux qui habitent ta maison. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la maison de Dieu, on peut être au bénéfice de sa grâce. Maintenant, n'attendez pas. Oui, bon, mais cet après-midi, je reviendrai à l'évangélisation. Oui, vous pouvez revenir et vous pouvez amener quelqu'un et il sera sauvé. Mais mes frères et sœurs, vous avez vu ces questions? Ça serait Jésus. Ça ne serait pas Jésus qui les pose. On pourrait dire, mais tiens, c'est quelqu'un de cynique qui pose ce genre de questions. Il faut vraiment avoir du toupet pour poser ce genre de questions. Un gars qui est malade depuis 38 ans, veux-tu être guéri? Vous avouerez que si ce n'était pas dans la bouche de Jésus, ça friserait le cynisme. Quand Jésus pose une question comme celle-ci, elle est intelligente. Est-ce que vous voulez être guéri? Est-ce que vous voulez être guéri? Peut-être que vous n'avez même pas la maladie que vous avez. Moi, je pense que certains chrétiens ne savent même pas la maladie dont ils sont atteints. Tellement ils sont en braque. Il y a des gens qui ne savent peut-être même pas qu'ils sont paresseux. Est-ce que la paresse, c'est une maladie? Est-ce que dans la Bible, la paresse est une maladie? Oui ou non? Vous demanderez au frère qui a enterré le talent si ce n'est pas une maladie mortelle d'enterrer le talent. Mais il y a des chrétiens, ils ne le savent même pas. Ils ont enfoui le talent, ils ne se rendent même pas compte à quel point ils doivent entendre cette question que Jésus te pose. Est-ce que tu veux être guéri de ta paresse? Peut-être que c'est la tiédeur, mais peut-être que vous ne le savez pas. Et ce n'est pas du tout dans le jugement. Les chrétiens de la Odyssée, qui en plus représentent les chrétiens de la fin des temps, de la dernière église sur la terre, se sont entendus dire, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Ils ne le savaient pas. Donc on n'est pas dans l'accablement, on est dans la prise de conscience. Est-ce que mon frère, ma sœur, moi je te le dis vraiment, je le sais, Dieu veut te guérir, pas à moitié, pas pour 3 semaines, Dieu veut te guérir entièrement. Il l'a fait dans la Bible, on voit des trucs, même fait, je veux dire quand on voit, quand il a ressuscité Lazare, qu'il a attendu que son corps soit en putréfaction, pour qu'on comprenne quand même que quand le Seigneur bénit, il peut vraiment bénir. Vous le croyez que Dieu peut vous bénir? Même si votre corps spirituel n'est pas en très bon état, le Seigneur, il peut te guérir. Ne commencez pas à écouter l'accusateur qui vous dit « Oui, mais tu te rends compte, ça fait 20 ans que tu fais la comédie, ça fait 20 ans que tu viens à l'église, mais tu es toujours dans le jugement, tu es toujours légaliste. » Mais oui, mais Dieu peut guérir du légalisme. Dieu peut guérir de la tiédeur. Le problème de l'église de la Odyssée, elle était tiède. Est-ce que tu entends Jésus qui te dit, est-ce que tu veux guérir de ta tiédeur? Le don que j'ai apporté tout à l'heure, et c'est pour quelqu'un qui aime le monde et qui ne le sait même pas, peut-être. Voyez, c'est, mais veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Physiquement, tant mieux si quelqu'un dit, mais oui, je suis malade, j'ai besoin d'une victoire, je crois que... Il guérit, c'est lui qui guérit. Vous savez, quand je me suis converti, j'aime pas trop parler de moi, parce que je le dis au pasteur, je dis ne parlez pas de vous quand vous prêchez. Mais quand je me suis converti, au bout de 2 mois, j'avais pas pris la victoire sur le tabac. Ça faisait 2 ans que j'essayais d'arrêter de fumer, ça faisait 2 mois que j'étais converti, et pour moi, même Dieu pourrait pas me guérir du tabac. J'étais accro, je fumais 2 paquets par jour, je ne pouvais pas m'arrêter de fumer. Ça fait que quand je me suis converti, j'ai tout réglé, sauf le tabac. Et quand le pasteur est venu me voir pour le baptême, j'avais mon paquet de cigarettes à la poche, il est arrivé, je n'allais pas la lever. Moi, la comédie, ce n'est pas mon truc. Il me dit, tu fumes toujours? Ben, je dis oui, ben, moi, je fume toujours, je fumerai toujours. Vous voyez, des blocages qu'on a parfois. Mais j'avais ce blocage, vraiment. Et il me dit, tu veux prendre le baptême? Je dis oui, mais je ne prendrai pas le baptême tant que j'ai ce problème. Et on a parlé, on a discuté de la conversion, de la repentance, ce qu'était le baptême. On n'a pas du tout parlé du tabac. Il a été intelligent, il ne m'a pas pris la tête avec ça. Et quand il est parti, j'ai dit, mais quand même, tu peux tout, Seigneur. Tu m'as tout montré au calvaire. Et je me souviens, j'avais toujours dans mon blouson un paquet de blondes, un paquet de brunes, des cigarettes, des cigares, tout le temps. Je me suis mis à genoux dans le jardin, je me rappelle. Ça faisait 2 mois que j'étais converti. Écoutez bien, parce qu'il y a des choses, vous savez que c'est une grâce, ça ne vient pas de vous. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, tu vois ce paquet de cigarettes, je le déchire. Délivre-moi. Moi, je savais que je ne pouvais pas. Délivre-moi. Je me lève. J'ai prié 30 secondes. Je me lève. À l'époque, je travaillais encore en boîte de nuit. Je suis resté 3 mois en boîte de nuit pour, avant de changer de métier, parce que je pense que ce n'était pas le métier le plus approprié pour un chrétien. Mais quand même, la boîte de nuit a fermé 6 mois après et la moitié du personnel s'est converti. Et le soir, j'arrive en boîte de nuit, tout ça, je commence à préparer mes petits cocktails. Bon, c'était un autre temps, hein, vous avouerez. C'était une autre époque. Et puis tout d'un coup, il y a un gars qui s'approche, qui me dit, vous servez-moi ci, servez-moi là, vous voulez un cigare? Et quand il me propose le cigare, c'est... pour moi, je n'avais jamais fumé de ma vie. Et j'ai compris vraiment que ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu le fait. C'est ça la grâce. Est-ce que quelqu'un peut se sauver? Est-ce que vous pouvez vous sauver vous-même? Non. La délivrance, c'est pareil. Vous ne pouvez pas vous délivrer vous-même. Je te délivrerai. Lorsque le Saint-Esprit est dans une église, lorsque le Saint-Esprit agit, le Seigneur le dit. Je répandrai de mon esprit, je guérirai les aveugles, j'ouvrirai les yeux des aveugles, je consolerai tous les affligés. À la place d'un habit de deuil, je te donnerai un habit de louange. Vous connaissez tous ces textes. C'est ce que Dieu veut faire ce matin. Et il faut arrêter de dire, oui, j'ai personne. Mes frères et sœurs, si le Seigneur est à côté de vous, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous avez besoin de faire un acte de foi. Vous vous rendez compte, il s'est approché de vous. Il s'est approché de lui. Pourquoi Jésus ne s'est-il approché que de cet homme? Puisqu'il est dit qu'il y avait une foule de gens, un grand nombre de gens, des paralytiques, des aveugles, des boiteux, etc. Des malades. Tout le monde était là. Et Jésus n'a été que vers cet homme. Alors, il faut bien comprendre une chose. Jésus faisait ce que Dieu lui demandait. Regardez, c'est dans ce même chapitre. Vous voyez, regardez quand même. C'est important. Verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 20. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il lui fait. Tout ce qu'il fait. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Jésus, Fils de Dieu, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il était soumis. Il ne faisait que ce que Dieu lui demandait. Et ce jour-là, Cet homme, il est certain, puisque cet homme a obéi, il est certain que, on le sait, c'est pas écrit, mais c'est facile à comprendre. Je ne sais pas ce qui se passait dans la tête de ce bonhomme depuis 38 ans. Ça commence à faire 38 ans. 38 ans que cet homme, mais il a dû entendre parler. Il y a les copains, les collègues qui venaient tous les matins. Tu sais pas, on t'a pas entendu parler de, tu sais, ce Jésus dont on parle. Mais il n'est jamais venu ici. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme. Mais si Jésus a rejoint cet homme-là, à ses pieds, ce jour-là, ça ne m'étonnerait pas que cet homme, chez lui, dans sa chambre, ait supplié le Dieu du ciel et de la terre de faire en sorte que Jésus soit à côté de lui, même s'il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Vous ne le connaissez peut-être pas comme vous devriez le connaître. Je ne le connais peut-être pas comme moi-même. Je devrais le connaître. Soyons intelligents. Est-ce que nous connaissons Jésus comme nous devrions le connaître? Non, personne, moi le premier. J'en suis sûr. Mais ça ne l'empêchera pas de nous bénir si nous faisons l'acte de foi. Le gars, il ne savait même pas qui c'était. Mais Jésus s'est retrouvé à ses pieds. Mes frères et sœurs, si nous sommes dans sa maison, si nous croyons que Jésus est au milieu de nous, si nous croyons vraiment que sa volonté c'est de guérir toutes les maladies physiques, les maladies psychiques, les maladies spirituelles, toutes sortes de maladies, ces maladies qu'on ne perçoit même pas. Il y a des gens, ils ne savent pas qu'ils sont malades physiquement. Il y a des gens, ils ne savent pas qu'ils sont spirituellement malades. Ils ne savent pas, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils aiment le monde. Ils ne savent pas qu'ils sont tièdes. Ils ne savent pas qu'ils sont paresseux. Ils devraient le savoir. Ils ont de l'énergie pour faire du sport. Et c'est bien. Ils ont de l'énergie pour faire ci, pour faire ça. Mais ils n'ont aucune énergie pour la gloire de Dieu. Mais demandons à Dieu, Seigneur, mais guéris-moi. Il est hors de question que je me présente un jour devant toi avec cette paresse qui n'a pas réglé, parce que la Bible est catégorique, un peu croiser les mains, un peu croiser les bras, et tatati, et la pauvreté te surprendra. Et il y a des chrétiens qui ne seront pas prêts parce qu'ils n'auront pas été sérieux. Cet homme, il a été sérieux. Et quand Jésus lui a dit « Prends ton lit, lève-toi et marche », il n'a pas argumenté. Quand les dix lépreux, quand ils se sont approchés de Jésus, ils étaient là, puis Jésus leur dit « Allez vous montrer au souverain sacrificateur ». Ils auraient pu dire « Attends, on va y aller quand tu nous auras guéris ». Et il nous a dit que pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Ils ont été guéris après avoir obéi. Et il y a un moment donné, il faut savoir se lever. Jésus lui a dit « Lève-toi ». En préparant cette prédication, je pensais à Anne. Anne, écoutez-moi bien mes frères et sœurs. Anne, c'était une femme stérile, qui était mortifiée. Si vous avez le temps, prenez un dictionnaire et regardez ce que Pénina lui infligeait. Elle l'a mortifiée tous les jours pendant des années. Vous savez ce que ça veut dire, mortifier quelqu'un dans la famille? Oui, c'est intelligent. Quand dans la famille, on se fait du mal. Elle mortifiait, ça veut dire qu'elle l'a blessée. Vous savez, quand on blesse les gens, on a vite fait les paroles. « Ah, mais t'es stérile. Mais Anne, t'as pas lu dans le Deutéronome? T'as pas lu dans le Lévitique que si t'es stérile, ma pauvre, c'est que tu dois avoir un péché secret ?» Et c'est vrai que c'est délicat, les épreuves. Il y a plein de femmes dans la Bible qui ont été stériles et c'était des gens droits et justes. Élisabeth, elle était juste. Cet homme s'était lié au péché, puisque Jésus va lui dire, ne pêche pas, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De pire que tant tu t'en paralysé, ben ça veut dire d'aller en enfer. Être quelqu'un qui a passé 38 ans paralysé et à qui lui arriverait quelque chose de pire, c'est qu'il aille en enfer. Voilà, si quelqu'un veut bien éteindre son téléphone, s'il vous plaît. N'attendez pas. Invoquez la grâce de Dieu. Faites-le maintenant, pendant que je suis en train de prier, de parler. Faites-le tout à l'heure. Moi, je veux donner cette opportunité à quelqu'un de dire, mais Seigneur, je sais que tu es l'Éternel qui guérit. Moi, je vous assure, j'ai fait une expérience avec mon bras il y a 3 semaines, mais vraiment de guérison instantanée. Je suis sûr que Dieu l'a permis pour que je puisse prêcher sur la guérison. J'en suis certain. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, mais il faut que je sache, moi aussi, me lever. Anne, ça a duré depuis des années. Ce n'est pas écrit 38, ça a duré tous les ans, c'est écrit. Tous les ans, c'était pareil. Elle allait au temple, elle aimait Dieu. C'est une femme vraiment qui aimait Dieu. C'est évident. Elle aussi, elle avait personne. Quand son mari lui a dit, mais tu sais, Anne, je t'aime. Est-ce que je ne veux pas mieux que 10 fils? Vous savez, des fois, nous, on essaie d'encourager nos épouses. Oui, mais, d'accord, 10 fils, c'est bien. Mais moi, je n'ai pas d'enfant. Elle était pleine d'amertume. Comment elle aimait Dieu? Qu'est-ce que vous dites? Ben on va le lire, tiens. Pour ceux qui l'auraient peut-être oublié. Mes frères et sœurs, regardez dans quel état était cette femme. Elle n'était peut-être pas paralysée physiquement. Mais je peux vous dire qu'elle était mal en point, spirituellement. Ça ne l'a pas empêchée de faire une expérience qui va changer le monde et qui va faire qu'elle va enfanter un des plus grands prophètes de l'histoire. À cause de sa souffrance. Quand même, il faut lire ces choses. Elles sont écrites pour notre instruction, pour que nous obtenions la consolation, dit la Bible. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 5. Il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Vous voyez, ce n'est pas parce que les gens vous aiment que le problème est réglé. Hein. Que l'Éternel avait rendu stérile. Ah, ces épreuves qu'on ne maîtrise pas. Notre frère Jean-Son Sinarizi, ce matin, nous parlait que quand Paul a été malade, eh bien, Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Vous savez, quand on rabaisse quelqu'un, est-ce que dans une famille, on peut rabaisser son frère? Est-ce que dans une maison, un couple, un homme peut rabaisser sa femme? Peut humilier sa femme? Est-ce qu'une femme peut blesser son mari? Vous voyez, c'est ça, mortifier. On devrait faire attention au vocabulaire. Parce que moi, je peux vous dire que c'est terrible quand on voit un homme qui parle, qui blesse sa femme par des paroles. La mortifier, c'est ça. Tu vaux rien. T'es comme minable. Mais monsieur Gros, vous rigolez. Dans l'église, les gens ne se parlent pas comme ça, dans la maison. Je ne sais pas, j'espère que non, bien sûr. Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, vous voyez, ça a duré, je ne sais pas si ça a duré 3 ans, 5 ans, 10 ans. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Et alors elle pleurait, voilà, et ne mangeait pas. C'est terrible, l'anorexie. Vous savez, moi, il y a des choses que je ne comprenais pas au début. Et plus je vieillis, c'est bizarre comment je comprends la souffrance des gens. Il faut avoir des fois eu un petit carton pour comprendre. Elkana, son mari lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé ?» Oui, elle était triste. « Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que des fils ?» Vous savez, il y a les hommes, on ne pourra pas faire certaines choses. C'est Dieu qui les fera. N'en voulez pas parce que quelqu'un ne peut pas vous aider. J'y tiens à ce que je vous dis ce matin. Parce que beaucoup de gens sont vexés, parce que votre mari ne peut pas vous aider. Il y a des choses, votre mari ne peut pas. Votre femme, elle ne peut pas. N'en voulez pas à votre pasteur parce qu'il ne peut pas, etc. C'est vraiment de la mauvaise foi que de dire, oui, on devrait m'aider, j'ai besoin d'aide, ou j'ai besoin d'amour, il faut quand même, j'en ai marre d'être célibataire. Vous ne croyez pas que Dieu pourrait remplir votre cœur de son amour? Les célibataires, peut-être que ça réglerait le problème et que vous seriez peut-être dans une condition où vous seriez prêt à recevoir un conjoint. Réfléchissez-y. Anne se leva, voyez, elle se leva. Il y a un moment donné, il faut dire stop. Vous allez me dire, mais elle se levait quand même chaque année pour aller au temple. Oui, mais quand c'est écrit comme ça, ça veut dire que spirituellement, elle a fait un acte de foi. La preuve. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme. Tu te dis, mais c'est pas possible. Elle va au temple, l'amertume dans l'âme. Mais c'est super que ça soit écrit. Elle pria l'Éternel, bien sûr, et elle versa des fleurs. Des pleurs, pardon. Excusez-moi. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction. Elle est affligée. L'affliction, c'est pas les pleurs, là. C'est plus grave, on est dans la déprime. Si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Vous voyez, elle avait la foi, cette femme. Elle avait la foi et en même temps elle souffrait. Elle avait la foi, en même temps elle avait de l'amertume. Elle avait la foi, en même temps elle était anorexique. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant le sacrificateur. Ah non, pardon, devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Cette affaire, elle devrait nous bouleverser. Et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Il aurait mieux fait de dire ça à ses fils. Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. Voyez la souffrance. Mais est-ce que vous allez me dire, alors, une parenthèse, écoutez-moi bien, sérieusement. Pourquoi Dieu permet-il que tous les hommes de Dieu soient enfantés dans des situations de souffrance? Oui ou non? Ça sera le résultat, mais ça vaut quand même la peine d'y réfléchir. Vous savez, il y a la souffrance, elle fait certaines choses dans notre cœur. C'est comme ça. On devrait y réfléchir intelligemment. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin, l'excès de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle y reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Vous connaissez la suite, comment cette femme, avec son fils, sont devenus un être humain pour restaurer le pays d'Israël, un enfant. Mes frères et sœurs, ça vaut la peine d'être guéri, parce que quand on est guéri, souvent la bénédiction, elle va sur nos enfants. Et cet enfant, Dieu l'a utilisé alors que c'était qu'un enfant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il est devenu un instrument de Dieu alors que c'était qu'un enfant. Moi, je vous dis, les jeunes, écoutez-moi bien, les parents. Ne mettez jamais un ordinateur dans la chambre de vos enfants ou une télévision. Vous entendez? Écoutez-moi, ce n'est pas moi qui vous le dis. Moi, ce n'est pas le genre de choses que je dis. Je vous le dis de la part de Dieu. Vous détruisez la foi de vos enfants. Il y a des enfants qui, à 9 ans, regardent des programmes pornographiques. Vous allez voir comment ils vont être vos gosses à 15 ans. Et après, vous dites, Seigneur, je ne comprends pas. Écoutez, je crois qu'on devrait quand même demander au Seigneur qu'il nous éclaire. Donne-moi du bon sens. Donne-moi de l'intelligence. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui guérit. À un moment donné, il faut se lever. Anne, elle s'est levée. Stop, elle a dit. Ça suffit. Je ne peux pas continuer comme ça, aller au temple, à aimer Dieu. C'est clair, elle aimait Dieu, cette femme. C'est évident. Elle aimait Dieu, mais ce n'est pas parce qu'on aime Dieu que tout est réglé. Quand on aime Dieu, il faut savoir répandre son cœur devant Dieu. Je disais tout à l'heure, avant que le culte ne commence, que lorsque Dieu a dit à Élie, Dieu lui fait une promesse des plus grandes, « Je ferai pleuvoir la pluie sur la face de la terre. » Merci. Il n'a pas dit « Merci Seigneur ». Vous savez ce qu'il a fait? Il a prié 7 fois jusqu'à ce que la pluie vienne. Dieu avait fait une promesse, mais il a persévéré jusqu'à ce que la pluie vienne. 7 fois, il a persévéré. Et la première fois, il dit à son serviteur, va voir, s'il n'y a pas des nuages dans le ciel. Le serviteur est revenu, il n'y a rien. Deuxième fois, va voir, il n'y a rien. Et la 7e fois, il y a un petit nuage. Mes frères et sœurs, je voudrais ce matin que vous perceviez dans votre esprit que Dieu est le Dieu qui donne sa grâce. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Ce matin, Dieu veut te secourir. Est-ce que tu es prêt à te lever et à dire, ça suffit, il y en a marre. J'en ai assez d'être paresseux. J'en ai assez d'être tiède. J'en ai assez d'aimer le monde. J'en ai assez de cette maladie qui me pourrit l'existence. Il faut que je fasse une expérience avec ce Dieu qui est capable de venir juste à côté de moi. Vous rendez compte, dans cette maison remplie de malades, le Seigneur Jésus s'est approché de lui. S'il l'a fait pour lui, je peux vous dire qu'il le fera pour toi. Il s'approchera de toi si dans ta chambre, tu dis, moi aussi, je veux m'approcher, que ça se passe dans le temple, que ça se passe dans ta chambre, que ça se passe n'importe où. Approche-toi de Dieu, crois que quand tu pries, il entend, crois qu'il est là, qu'il est tout puissant. Il est tout puissant, le Seigneur. Mardi, on va voir, j'ai prié pour mardi. Mardi, j'ai compris vraiment pourquoi Dieu nous demande de rendre grâce. Dieu nous demande de rendre grâce parce qu'il règne au siècle des siècles. Il règne. Et ce matin, je voudrais qu'il règne. Et je voudrais que ce matin, vous puissiez dire, mais il faut que je me lève. Je suis plein d'amertume, je suis irrité, j'en deviens anorexique ou boulimique, j'en deviens ceci ou j'en deviens cela. Je suis irrité contre mon frère, je suis irrité contre ma sœur parce qu'elle me fait toujours des raisonnements par rapport à ma santé, etc. Bien alors, ne dites plus « j'ai personne ». Si vous avez accepté Jésus-Christ un jour comme Sauveur et Seigneur, de grâce, ne dites plus « j'ai personne ». Parce que même si des gens vous ont abandonné, et puis quand on est chrétien, il y a plein de gens qui nous abandonnent parce qu'ils ne supportent pas qu'on soit chrétien. Ce n'est pas grave, c'est peut-être mieux. Mais mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas dire « je n'ai personne ». Vous pouvez dire maintenant « j'ai quelqu'un de merveilleux ». Dans la voiture, vous pouvez dire « Seigneur, je sais que tu es avec moi ». Vous savez, quand on cherche, on trouve. Dernièrement, il y a quelques mois de ça, vous en souvenez peut-être, je termine avec cette pensée avant qu'on prie vraiment pour les malades. Vous savez, il y avait quelqu'un qui a dit, il y a des milliers d'anges, parce qu'on a des chants comme ça, où des milliers d'anges. Je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas des milliers d'anges. C'est pas possible, ça ne tient pas debout. On est 7 milliards et demi de gens sur la Terre, il ne peut pas y avoir des milliers d'anges. Un ciel avec des milliers d'anges, c'est un truc de riquiqui, de rien du tout. Et dans la semaine, je lisais Daniel. Je vous le dis, on va le lire, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Parce que quand on cherche, mes frères et sœurs, eh bien le Seigneur, il nous éclaire. Vous le croyez? Regardez dans le prophète Daniel. Alors, que je ne me trompe pas, c'est chapitre 10, non? Non, 7. Au chapitre 7, regardez, c'est écrit. Vous avez le nombre d'anges. Regardez si c'est beau. Je vous le dis, parce que c'est écrit. Le Seigneur a voulu que nous le sachions. Ça fait du monde, hein, je vous le dis. Daniel 7, verset 10. Regardez ça. Regardez si ça fait du monde. Daniel 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient. Alors ça fait déjà 1 million. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Ça fait 10 milliards. Ça commence à faire ou non? C'est bien ou c'est pas bien? 10 milliards, 1 million d'anges dans le ciel et sur la terre pour nous protéger. Parce que si on est là ce matin, laissez-moi vous dire qu'il y en a quelques-uns qui ont dû vous protéger. Vu comment certains conduisent, moi je peux vous dire que c'était... Moi j'en ai pas besoin. Mais je peux vous dire, hein, parce que je conduis super bien. Mais vous qui conduisez mal, je peux vous dire que le Seigneur vous assure. Vous ne croyez pas que Dieu vous a gardé quelquefois? Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui a tout prévu. Il a prévu des anges pour tout le monde. Il a prévu la guérison pour tous ses enfants. même si vous êtes plein d'amertume. Levez-vous. Est-ce que vous êtes d'accord, frères et sœurs, pour que on ferme les yeux quelques instants? Mes frères et sœurs, c'est vraiment sérieux. Cet homme n'a pas dit « je ne peux pas me lever ». Anne n'a pas dit au sacrificateur « mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle a juste dit « je répandais mon âme devant Dieu ». Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va vous demander, mais par son esprit, je sais, je le sais, Dieu va te demander quelque chose. De renouveler ta consécration, de te consacrer peut-être pour la première fois. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas baptisé, ben de vous repentir. Repens-toi et convertis-toi. Ne dites pas aux gens « priez pour que je me repente ». Non, on ne priera pas pour que vous vous repentiez. La Bible ne dit pas « on va prier pour que vous vous repentiez ». La Bible dit « repentez-vous et convertissez-vous ». Et s'il y a quelqu'un qui dit « mais moi je suis malade depuis 10 ans ». Je suis tout le temps en train de faire la tête. J'ai besoin d'être restauré. Est-ce que Dieu peut restaurer quelqu'un ce matin? Est-ce que tu veux faire un acte de foi? Peut-être tu le fais à ta place. Tu restes assis à ta place et tu fais un acte de foi. Et fais-le. Peut-être que tu as besoin de venir sur le devant et de dire, mais je veux qu'on prie avec moi, j'en peux plus. Eh bien, venez. On reste recueilli. Faites ce que Dieu vous demande. Fais ce que Dieu te demande. On est devant le Seigneur. Devant le Seigneur, il n'y a pas de comédie. Où vous avez besoin de venir, et vous venez. Et Monsieur de Dieu, il y a Janson, il y a Nicolas, il y a Jonathan, on priera pour vous. Ce n'est pas les mains de ces hommes qui se poseront sur vous, c'est les mains du Seigneur qui honorera son nom puissant qui a été au calvaire. Peut-être que vous êtes, mais vraiment, peut-être que vous n'êtes pas conscient de votre maladie. Vous sentez qu'il y a une maladie, vous la discernez pas. Il y a des fois, il faut aller chez le médecin qui nous dit, mais voilà, vous avez ça, vous vous rendez pas compte. Vous devriez arrêter la charcuterie, vous avez trop de quoi. Ah bon, j'ai du cholestérol. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas envie que le Saint-Esprit vous parle, qu'il vous montre ce qui ne va pas? Vous n'avez pas envie que le Saint-Esprit vous touche vraiment? Que voulez-vous que je vous fasse? Cette question, mais là aussi c'est pareil, on pourrait dire, mais c'est grave qu'il ait posé. Non, c'est pas grave. Ça nous montre que vous devez faire un acte de foi. Mon frère, ma sœur, fais-le à ta place, ou viens sur le devant, mais fais ce que Dieu te demande. Demande-lui un éclairage, demande-lui une faveur, mais crois qu'il est là prêt à le faire. Et si t'es honnête, comme cet homme qui a dit, mais je crois, quand Jésus lui a dit, crois. Et cet homme, il a dit, mais je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez, ça c'est super. Je crois, Seigneur, mais il y a quand même du doute. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous avez... Mais venez, venez, que l'Esprit de Dieu vous baptise, que l'Esprit de Dieu vous touche.